Jeanine Dubié, nous sommes donc à J-4 du premier tour. Un point sur votre campagne, comment ça se passe? Est-ce que c'est particulier cette année?
Alors, déjà sur la campagne, nous avions fait le choix de passer dans les 182 communes de la circonscription. Donc, c'est terminé. Nous les avons visitées toutes. Nous avons rencontré l'ensemble des maires et des conseillers municipaux. Ça s'est bien passé. Ça a été des échanges très intéressants. Et ça m'a permis aussi de faire le point sur la situation en fin de mandat au niveau de ces communes, sur des sujets particuliers qui les touchaient ou sur des sujets plus généraux. On a également fait un certain nombre de marchés, de rencontres avec les citoyens. Voilà, donc je termine cette campagne dans un esprit serein. Vous me demandez si elle est particulière. Bien sûr qu'elle est particulière, parce que l'élection du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a bouleversé le paysage politique. Donc, on n'est plus dans ce qu'on a pu connaître avec une majorité et une opposition par rapport à un gouvernement. Là, aujourd'hui, plusieurs forces démocratiques sont représentées au niveau du gouvernement. Et donc, du coup, ça, effectivement, ça trouble un peu le jeu. Mais c'est de nouvelles règles du jeu dans lesquelles nous devons nous adapter. Voilà.
Les sondages actuels annonceraient jusqu'à 400 députés à République en Marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce
Alors,
que
en effet, j'ai entendu ça, entre 380 et 420 députés. Je suis assez surprise. La question, en fait, c'est de savoir comment sont faits ces sondages et sur la base de quoi. Est-ce que c'est des sondages par circonscription ou bien est-ce que c'est une extrapolation à partir des résultats de la présidentielle? C'est d'ailleurs ce que je pense. Mais on peut pas, enfin, je pense qu'on ne peut pas comparer une élection présidentielle et des élections législatives, tout simplement parce que sur une élection législative, on est sur un scrutin uninominal, sur une circonscription bien déterminée avec des électeurs. Et donc, il y a quand même, je pense, une implication et une présence du député sur le territoire qui, à mon avis, peut compenser ce qu'on peut appeler la vague Macron. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura 400 députés? Je reste encore un peu réservé par rapport à ça et je crois qu'il faut attendre dimanche soir pour voir réellement quel sera le paysage politique.
Alors, certains candidats mettent l'accent cette fois-ci sur le rôle du député essentiellement, c'est-à-dire un pouvoir législatif et ensuite un contrôle du gouvernement. Le reste, le territoire et tout ça, passe après. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est vrai que la fonction du député, c'est de faire la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Mais en même temps, comme je vous le disais, il est élu sur une circonscription par des citoyens. Et ces citoyens-là, ils attendent aussi du parlementaire qu'il s'inquiète des grands dossiers ou des préoccupations qui existent sur la circonscription. Donc, moi, je crois qu'il y a les deux niveaux. Il y a le niveau national, mais ce qui est important pour un parlementaire, c'est de faire l'articulation entre une loi qui est de portée générale et comment cette loi va se décliner sur le territoire et d'anticiper sur les effets de la loi sur le territoire de façon à présenter des amendements qui est un droit parlementaire, et ça là-dessus je veux insister, de façon à ce qu'au travers des amendements, eh bien, ça puisse davantage répondre aux besoins du territoire pour lequel il est élu. Ensuite, effectivement, il y a des dossiers majeurs pour le territoire sur lesquels le parlementaire doit s'impliquer. Il y a effectivement le sujet aujourd'hui qui revient à l'ordre du jour de la création d'un hôpital entre Tarbes et Lourdes. Moi, j'y suis effectivement favorable. Cela suppose qu'un projet médical soit travaillé et partagé avec l'ensemble des équipes médicales. Ce travail est entamé. Le sujet quand même sur lequel j'ai attiré l'attention de l'ARS et sur lequel, si demain j'étais réélu, je formaliserais ça parce que j'ai eu deux fois l'ARS et ça a été des échanges oraux, c'est la question de l'emplacement. Je ne voudrais pas que quand on a bien avancé sur ce sujet de reconstruction à l'âne, qu'on se retrouve dans la même situation que pour la deux fois deux voies, où on va trouver des contraintes environnementales ou éventuellement liées à la biodiversité qui fassent que ça retarde encore le projet parce qu'il faudra des études sur les espèces protégées. Donc j'ai demandé à l'ARS en fait une coordination avec les services de l'État et que s'il y a un site autour de l'âne, enfin, autour de cette deux fois deux voies qui est pressenti, que déjà les études environnementales et les contraintes liées à la biodiversité soient étudiées.
Et parmi d'autres dossiers, donc, ce que vous évoquez, entre autres, c'est le contournement d'Adé.
Oui,
le contournement d'Adé, ça, qui donne lieu à quelques polémiques.
Oui, mais bon, je pense que les gens du territoire savent que ce sujet nous occupe beaucoup avec Michel Pellieu. Il y a eu effectivement un certain nombre de réunions sur ce dossier. Nous avons été reçus par le ministre Vidalis deux fois, à la fois au mois de décembre, et nous avons été reçus de nouveau en avril. Nos entretiens, Michel a fait des propositions, notamment sur un marché de conception, bon, que l'État ne souhaite pas retenir parce qu'il trouve que de ce marché de réalisation-conception, les conditions ne sont pas remplies pour que ça puisse être mis en œuvre. Mais en tout cas, sachez que nous sommes mobilisés et nous avons reçu un courrier du ministre donc Vidalis, dont vous pourrez prendre connaissance et qui précise effectivement les contraintes environnementales. Moi, ce que je regrette tout de même, c'est que depuis le temps que ce dossier est engagé, on ne s'en soit pas rendu compte avant que les porons rocheux qui contiennent de l'amiante, que le marais de Sauve, s'il y a des espèces protégées, franchement, c'est pas très, très acceptable pour le citoyen ni pour les élus qu'on retarde encore ce chantier alors qu'on a fait le grand ouvrage d'art à la hauteur de tous les coups. Franchement, c'est incompréhensible.
Parmi les sujets qu'avance Emmanuel Macron, enfin son gouvernement, il y a la moralisation de la vie publique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très favorable. Je partage tout à fait la volonté de ce gouvernement de vouloir encore plus de transparence. La seule chose que je veux rajouter, c'est que déjà, nous avons voté deux textes de loi, et notamment un en octobre 2013, relatif à la transparence de la vie publique. Et d'ailleurs, si toutes ce qu'on a appelé les affaires qui sont sorties au moment de la présidentielle, si ces affaires ont vu le jour du fait des investigations des journalistes, eh bien c'est parce que c'est ces textes de loi que nous avons votés qui l'ont permis. Donc moi je souhaite effectivement que nous poursuivions. Il y a une proposition de fiscaliser l'indemnité représentative de frais de mandat et que le parlementaire justifie de ses frais professionnels. Eh bien, j'y suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je le fais déjà. Depuis 2012, je tiens effectivement un carnet de comptabilité là-dessus et une facture, un chèque. Et je pense que c'est beaucoup plus sain pour tout le monde. Il souhaite également supprimer la réserve parlementaire. Ben, écoutez, pourquoi pas ? Voilà, je veux dire, moi je ne vois pas d'inconvénient à ça. À ce propos, c'est vrai que certains candidats veulent relever qu'il y aurait peut-être eu une répartition inégale de la réserve parlementaire sur le territoire. Je veux rappeler à ces candidats qu'en 2013, nous avons vécu des éléments dramatiques au travers des inondations, qu'il y a eu aussi la commune de Chaises dans le cadre des gorges de Luce a été impactée également. Donc c'est vrai, je reconnais, mais ça fait partie de la solidarité départementale, que dans le cadre de ces inondations, il y a eu sur deux ans 100 000 euros qui ont été alloués aux 6 000 et aux 6 vom du Pays Toy pour la reconstruction et pour les accompagner en plus des crédits d'État du Conseil général, du Conseil régional que les collectivités ont reçus. Et en ce qui concerne les gorges de Luce, dans le cadre de la première tranche, j'ai fait le choix sur la réserve parlementaire de 2017 d'octroyer 60 000 euros pour venir compenser l'autofinancement des communes qui était évalué à 120 000 euros. Depuis, les travaux sont beaucoup plus importants. Donc, moi, j'ai pas de commentaire particulier à faire. Simplement, il faut aussi que les gens qui regardent les chiffres se rappellent aussi des événements qui se sont passés. Et je trouve que utiliser cette réserve parlementaire pour venir accompagner les collectivités quand il y a des catastrophes naturelles de cette nature, ça me paraît légitime.
Si l'on se projette sur la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle semble se dessiner, qui sera dans la majorité, qui sera dans l'opposition, que sera la majorité et que sera l'opposition.
Alors, je trouve que c'est une question pleine de malice, fort sympathique. C'est vrai, vous avez raison. Je veux dire que aujourd'hui, voilà, tout ce schéma qui a construit la vie politique française d'opposition, de majorité, ben, a complètement éclaté. Moi, je crois simplement qu'on va s'en aller vers des majorités de projets. Et après tout, bon, pourquoi pas. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai déjà eu à le dire. Je suis transparente. Je suis la candidate. Je suis radicale de gauche. Je suis dans le cadre d'un accord avec le Parti socialiste, puisque cette deuxième circonscription est réservé aux radicaux de gauche. Et demain, dans l'hypothèse où je suis élue, j'espère que nous serons suffisamment nombreux de députés radicaux ou apparentés pour pouvoir constituer un groupe et pouvoir avoir une vie autonome à l'Assemblée nationale, tout en nous situant dans la majorité parlementaire, comme nous l'avons fait durant ces 5 ans à côté des socialistes.